Bonjour et bienvenue dans le podcast Penser la santé. Nous nous retrouvons pour la troisième partie de l'épisode consacré aux questions posées par le prélèvement d'organes. Savoir quelle est notre position vis-à-vis du prélèvement d'organes, savoir si l'on souhaite donner ses organes après sa mort, revient à imaginer ce que pourrait devenir notre corps après notre décès. De la même manière qu'on parle du mode de sépulture qu'on souhaiterait, l'inhumation ou la crémation, donner ses organes est donc une question qui concerne un avenir au-delà de notre expérience et qui nous apparaît donc toujours théorique. En revanche, pour les familles des défunts qui ne se sont jamais exprimées sur le don d'organes, il est beaucoup plus difficile d'aborder la question. Au moment où la question se pose à la famille, elle vient d'apprendre le décès. Cette annonce faite aux proches est le point de départ d'un processus de deuil parfois très soudain. Ils sont confrontés à une situation concrète et c'est à ce moment qu'il leur faut en plus penser à ce que le défunt aurait souhaité concernant le don d'organes. Pour eux, ce n'est pas une réflexion théorique ou une projection imaginaire, mais ils sont face à une question concrète qui va avoir des conséquences. Les soignants qui travaillent à la coordination du prélèvement d'organes et de tissus doivent à la fois prendre soin des familles et des défunts eux-mêmes. Le défunt est considéré comme un patient et le respect de la dignité de ce défunt est au centre des pratiques. Pourtant, cette forme de dignité n'est pas toujours facile à comprendre. Elle ne ressemble pas à la dignité associée à la vie qui se définit par le respect de l'autonomie. Le cadavre représente la personne, il ne peut jamais être traité comme une chose. Et précisément, l'inquiétude pour l'intégrité du corps du défunt est souvent questionnée. Penser la réalité du corps en tant que cadavre est une épreuve qui peut être un frein dans la réflexion sur le don d'organes. Comment le corps sera-t-il traité? Risque-t-on d'effacer la personne derrière les organes ou de ne pas pouvoir retrouver la dépouille de son proche pour les rites funéraires? Je poursuis la discussion que nous avions commencée dans la première partie avec mes invités. Marie-André.
Oui, infirmière à la coordination du prélèvement d'organes et tissus sur le CHU de Toulouse. Bonjour.
Et Xavier Bioy.
Professeur de droit public à l'université Toulouse-Capitole, co-directeur du master éthique, soins et recherches.
Et Guillaume Ducot.
Médecin anesthésiste réanimateur et coordinateur des prélèvements d'organes et de tissus au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Selon la loi, si je comprends bien, une personne qui n'est pas inscrite sur le registre des refus, elle est considérée comme donneuse.
Oui, c'est ça. Elle est présumée accepter la potentialité du don.
D'accord. Mais dans les faits, c'est pas vraiment ce qui se passe.
Alors, dans les faits, ça ne ressort pas du droit. La lecture que je peux en faire depuis donc une cinquantaine d'années, quand même, qu'existe ce principe, c'est qu'effectivement, les équipes soignantes répugnent à prélever s'il y a une résistance de la famille. Alors, le cynisme du juriste dira que c'est pour éviter des contentieux et des problèmes à l'hôpital. L'éthique du soin conduit de toute manière à cette solution-là, parce que si le décès n'est pas accepté, comme ça a été expliqué, si le principe n'est pas accepté par ceux qui restent, c'est source de trop de confusion et de trop de difficultés. Mais effectivement, l'État pousse quand même à ce que les soignants prélèvent un maximum et à ce qu'on soigne un maximum de gens. Donc c'est une tension éthique importante. Et je laisse les soignants en témoigner.
Je sais que c'est un concept, mais il me semble important de... On ne sollicite pas l'accord des familles. On ne sollicite pas l'avis des familles. On sollicite le recueil du positionnement du défunt. Et il y a deux solutions. Ou le défunt était positionné, pour ou contre. Et là, notre devoir de soignant est d'accompagner ce défunt dans le respect de son autonomie, pour ou contre le don d'organes. Ou alors, le défunt n'était pas positionné. Là, je laisserai la parole à Marie, parce que c'est la situation la plus, celle qui met le plus de relations de soins. C'est-à-dire, est-ce que ce don, cette potentialité de don, était dans les valeurs du patient? Mais ce qui est important, c'est qu'on cherche la non-opposition du patient. On ne cherche pas l'avis ou le consentement des familles. Voilà. Ça, c'est comme ça qu'on respecte la loi.
Finalement, ça donne l'impression quand même que, bien sûr, la personne qui est au centre de la démarche, c'est le défunt, mais qu'on prend en soin, d'une certaine manière, les familles.
Oui, c'est vrai que les entretiens, on est là pour connaître le positionnement de leurs proches, mais on est aussi là pour vraiment accompagner ses proches. Souvent, quand la personne ne s'est pas positionnée, c'est vrai qu'on va rentrer dans un dialogue. Déjà pour rechercher le témoignage, mais aussi par rapport aux valeurs de leurs proches, mais aussi par rapport à ce qu'eux ressentent. Par exemple, peut-être le manque d'informations par ce dialogue. Déjà, on va déjà les écouter. J'aime bien leur laisser du temps aux proches au début de l'entretien pour connaître les informations qui va leur manquer pour un petit peu cibler mon entretien, en fait. C'est vrai que leur laisser d'abord le dialogue, c'est connaître, les connaître un petit peu plus. Et ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de regrets et qu'il n'y ait pas de remords. Parce que c'est vrai que si la personne ne s'est pas positionnée, ils ont un peu ce sentiment de devoir prendre la décision pour eux. Répondre à leurs questionnements et des fois à leurs craintes aussi par rapport à comment se déroule le don. Et aussi, des fois, c'est un non. Ils peuvent nous dire non, mais c'est un non aussi à la mort parce que l'annonce de décès est encore...
Oui, très récente.
Très récente. Voilà, notre entretien, ça va être que ses proches aient vraiment le sentiment d'avoir pris la... Enfin, d'avoir déjà recueilli le meilleur témoignage possible par rapport au don et ce qu'auraient souhaité leurs proches. Mais qu'eux, ils vivent au mieux aussi la décision finale, quoi.
Oui, et ses conséquences, j'imagine.
Ce ne sera pas une intervention, c'est une question, parce que la question du statut du cadavre et de la mort est éminemment culturelle. Oui. Est-ce qu'il y a des médiateurs culturels qui vous aident dans votre travail? Puisqu'on sait bien que dans certaines communautés, il y a une forme d'appropriation collective du corps du défunt, avec peut-être un sentiment de spoliation quand on propose un don d'organes, l'impression qu'on prend quelque chose à la famille et que ça ne se fait pas. Oui. Et comment est-ce que tout ça est traduit? Est-ce que vous avez une formation anthropologique ou une aide à la médiation culturelle?
On n'a pas de formation particulière. Au sein du CHU, il y a des représentants de chaque culte avec qui on est en lien. Il est possible, voilà, de les contacter. C'est assez rare. C'est vrai qu'on est souvent, on contacte plutôt les représentants des cultes de la famille, en fait. Du proche, voilà. Et souvent, les personnes ont leurs représentants de culte et on va plutôt rencontrer les représentants de leur communauté.
D'accord.
Il n'y a pas de religion qui s'oppose à la notion de don d'organes. C'est important de le dire. Après, il y a des interprétations de ces religions-là, mais en tout cas, les trois grandes religions monothéistes mettent en avant le principe de générosité pour argumenter la possibilité du don d'organes. C'est à l'échelle individuelle, ce principe de générosité, il peut se heurter au principe d'intégrité physique. Et là, on est plutôt dans l'interprétation individuelle ou communautaire de la foi, on va dire, ou de la spiritualité, plutôt que face à un positionnement cultuel précis.
Justement, j'allais aborder la question de l'intégrité, parce que ça paraît être un des aspects les plus difficiles dans cette question du don d'organes pour les proches. C'est l'idée que le corps du défunt risque de perdre son intégrité, c'est-à-dire que ce corps serait traité comme une sorte de réserve d'organes. C'est un peu ce que vous évoquiez tout à l'heure. Et ça effacerait l'unité de la personne défunte, même si, comme le dit Vladimir Jankélévitch, je ne suis pas la somme de mes organes. Et malgré ce sentiment, on peut avoir l'idée que le prélèvement serait une sorte de mutilation du corps. Ça met en avant la question de la dignité du corps du donneur, qui est très importante sans doute pour les familles. Comment vous répondez face aux familles à cette inquiétude?
Déjà, on explique aux familles que souvent, ils ont des inquiétudes d'abord par rapport à la chirurgie, comment se déroule le prélèvement. Donc, on leur explique que c'est comme une chirurgie classique, que ce sont les chirurgiens de chaque spécialité qui se déplacent. On se porte garante du respect de l'intégrité du corps de leurs proches. On leur explique qu'on est présente tout le long du don. On leur propose aussi de pouvoir les habiller après le bloc, en collaboration avec l'équipe du bloc opératoire. On leur demande aussi s'ils ont des demandes particulières. Pour nous, c'est vrai que le temps du bloc, du don, le corps est recouvert du champ opératoire. On est dans la partie un peu plus technique et organisationnelle. La toilette, pour nous, c'est vraiment un moment important où on réhumanise le don. Et même pour nous, en tant que coordinatrice et même les équipes du bloc, c'est un moment qui est très important pour nous. Voilà, c'est on va se mettre dans notre bulle, on va prendre soin, apporter les soins mortuaires. Si les proches avaient des demandes particulières, ben on va les relater à l'équipe du bloc opératoire. Et c'est vrai que ce moment-là est très important pour toute l'équipe.
Et sur la restitution du cadavre, finalement, c'est-à-dire que toutes les opérations de prélèvement sont menées. Ensuite, vous faites cette toilette mortuaire. Et il y a une obligation là-dedans qui concerne la dignité du cadavre, je suppose.
Oui, très rapidement, il y a effectivement une obligation légale après autopsie comme après prélèvement d'une restitution digne du corps qui va être détaillée techniquement. Je veux juste dire qu'il y a du contentieux là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a quand même des familles qui font des recours lorsqu'ils estiment que le corps du défunt n'a pas été restitué dans de bonnes conditions et qu'ils ont subi une forme de préjudice moral à avoir leur proche, alors pas en France, hein, mais c'est un contentieux européen qui remonte jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, qui a rendu plusieurs arrêts sur le fondement de l'article 3, c'est-à-dire les traitements inhumains et dégradants. Les proches peuvent être victimes par ricochet, d'une certaine façon, de l'absence de restitution propre, digne du cadavre du défunt.
Marie décrit un soin de fin de vie, hein, qui est une toilette mortuaire, etc. Avant, il y a toute une partie de restauration tégumentaire, c'est-à-dire que les prélèvements qui sont réalisés sont remplacés afin de conserver un aspect extérieur compatible avec la dignité du patient. C'est-à-dire que, je prends un exemple, les exemples qui sont les plus marquants, par exemple un prélèvement osseux, on se rend compte qu'il n'y a plus d'humérus dans le bras, il va être remplacé par une prothèse afin de conserver le galbe général du membre, sa rigidité, etc. C'est la même chose pour les cornées qui entraînent ce galbe de l'œil sont prothésées. Il y a des lentilles qui sont mises à la place afin que les stigmates du prélèvement soient minimum et ne soient que des cicatrices chirurgicales. J'insiste sur ce que Marie a dit, mais avec toute son humilité, les infirmières coordinatrices sont garantes de tout ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la dynamique d'une relation de soins avec ces familles. Dans la littérature médicale, on constate que les familles qui ne s'opposent pas et qui traduisent une non-opposition de leurs proches sont des familles qui se sentent plus accompagnées par les équipes soignantes médicales et paramédicales que celles qui ont tendance à s'opposer. Donc il y a une vraie dynamique de communication, mais ça c'est presque un plan commercial, entre guillemets. J'insiste plus sur la dynamique de relation. Et les infirmières coordinatrices se positionnent comme garantes de la dignité de la fin de vie, c'est-à-dire que reposent sur leurs épaules justement tout l'aspect et toute la potentialité de rite funéraire après le prélèvement, c'est elle qui en assume la responsabilité.
Justement, est-ce que les rites funéraires ont une place dans le prélèvement ? C'est-à-dire qu'on peut avoir le sentiment que ça pourrait être un empêchement ou en tout cas, on comprend que la famille va récupérer son défunt, enfin, va retrouver son défunt à la fin du processus. Mais est-ce que cette procédure s'oppose finalement au rite funéraire ?
Durant une formation, j'avais rencontré une représentante du culte musulman. Elle nous avait montré en fait toute la toilette qui est effectuée. Après, elle nous expliquait que ce n'était pas incompatible avec le don d'organes.
D'accord.
Oui.
Donc il n'y a pas de rite funéraire qui soit incompatible finalement avec le don d'organes.
Alors on peut présenter, il n'y a pas de rite funéraire qui soit incompatible avec le don d'organes, on peut présenter la dépouille à l'issue d'un don d'organes. La seule question, c'est la question du temps. C'est la question de la temporalité. En France, il y a une obligation de mise en bière à 48 heures après le décès. Or, le décès, dans le contexte de la mort encéphalique, il est diagnostiqué au moment de l'examen paraclinique, donc de l'angioscanner ou de l'électroencéphalogramme. Et donc toute la phase de coordination et de prélèvement des organes est postérieure au décès. Donc ça, ça peut amputer le temps qui est laissé à la famille pour, par exemple, une présentation avant mise en bière.
L'une des tâches qui vous revient dans la coordination, c'est de consulter les proches, mais on a bien compris que ce qui est recherché, ce n'est pas la vie ou le souhait de la famille, mais c'est ce qu'aurait été le souhait du défunt. Donc pour un défunt qui ne s'est pas exprimé de son vivant à propos du prélèvement d'organes, à propos du don d'organes, est-ce que vous parvenez à faire en sorte que les familles comprennent que c'est... parce que ça doit être quand même difficile cette situation, c'est-à-dire ils sont sollicités dans le contexte d'une question sur le don d'organes, mais ce n'est pas eux à proprement parler qui sont sollicités, c'est ça. Comment vous arrivez à recentrer cette réflexion ou à expliquer que c'est la position finalement du défunt qui est importante, alors même qu'il n'est pas là pour s'exprimer?
Souvent, donc, on parle du registre national des refus. C'est vrai qu'on explique que selon la loi, de son vivant, on peut s'inscrire sur le registre pour dire qu'on était opposé au don. Et ensuite, on recentre sur ce qu'on... C'est vrai qu'on leur explique par le biais du registre national du refus qu'on recherche vraiment le positionnement de leurs proches. Et on recentre sur les valeurs, en fait. On essaye d'instaurer un dialogue avec ses proches pour savoir si à travers eux, en fait, selon ce qu'était la personne, qu'est-ce qu'il aurait souhaité.
Oui, à travers les valeurs qu'il pouvait défendre, sa manière de vivre, des éléments de personnalité finalement.
Ou des situations de vie qu'ils auraient pu avoir ensemble. Et c'est vrai que ça peut être des dialogues, ça peut être plusieurs entretiens. On peut leur soumettre l'idée aussi peut-être de contacter un ami proche qui est peut-être qui est pas présent à l'entretien, qui peut-être on avait pu en discuter avec lui.
Oui, donc c'est une enquête pour reconstituer en quelque sorte ce que le défunt aurait souhaité pour lui-même.
Oui, voilà, c'est ça.
Tout en gardant en tête que la loi nous dit qu'il est présumé qu'on s'entend.
Et s'il n'y a pas unanimité chez les proches, parce que le périmètre des proches, c'est vous aussi qui l'appréciez. C'est vous qui voyez quels sont ceux qui se sont manifestés, qui sont là. Et s'il n'y a pas unanimité, je crois savoir que vous ne prélevez pas. Est-ce qu'il suffit d'une opposition de quelqu'un qui dit non, moi je suis certain qu'il n'aurait pas donné, pour que vous renonciez, ou est-ce que vous avez une technique pour passer outre?
C'est vrai que si parmi les proches, il y a une personne qui nous relate que pour lui, il aurait été opposé, c'est vrai qu'on n'ira pas au don. Après, ça va être encore du dialogue, parce que si toutes les personnes présentes n'ont pas la même, nous relatent pas le même témoignage, c'est peut-être essayer de savoir pourquoi cette personne relate ce témoignage différent des autres proches et engager un dialogue entre eux, en fait, pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils nous relatent pas le même témoignage et quelles informations ne sont pas cohérentes ensemble. Voilà, ça va être plus du dialogue.
Et j'imagine que ça peut aussi arriver qu'il n'y ait pas de consensus entre la vie qu'aurait eu le défunt et la position des proches.
Oui, c'est possible. Et ça va être le vécu en fait, du proche par rapport au don. Donc ça va être donner des informations, parler de garanties, un petit peu de sécurité, si ça, pour les rassurer en fait, sur le déroulé du don, comment ça se passe. Souvent, leur parler de notre rôle de coordinatrice.
Un message quand même à faire passer, c'est que chacun qui nous écoute puisse se positionner auprès de ses proches. Parce que ce qu'on voit dans la littérature médicale, des familles qui ont été dans cette situation-là, une famille qui connaît le positionnement de son proche, qu'il soit pour ou contre, ne va pas subir en fait justement toutes ces réflexions et ce poids quelque part de la décision. Même si on ne cherche pas la décision de la famille, eh bien c'est quand même, vous l'avez compris, notre interlocuteur principal, et ça va être sa responsabilité de faire émerger cela. Donc le plus simple, c'est d'être positionné, c'est-à-dire que le proche sache quelle est la réponse. Et ça, on voit bien que ce sont des familles qui vont développer moins de complications psychotraumatiques. après.
Merci beaucoup Marie-André, Xavier Bioy et Guillaume Ducot. C'était Flora Bastiani pour Penser la Santé, le podcast du réseau de recherche Penser la Santé de l'Université Toulouse-Jean Jaurès.